France Info.
Bonsoir. 8 Français sur 10 n'ont pas trouvé Emmanuel Macron convaincant lors de son discours hier et 84% estiment désormais que le mouvement des Gilets jaunes est justifié. Verdict sans appel de notre enquête au Doxa, d'Intsu Consulting pour France Info et Le Figaro que nous allons détailler dans les informés. Et pourtant, vous le verrez, les principales mesures proposées par le chef de l'État ne sont pas si mal accueillies. Toujours ce malentendu au sujet de la transition énergétique. Le Brésil, tiens, justement, il refuse d'accueillir la COP25 l'an prochain en raison de restrictions budgétaires. Le nouveau président élu, Jair Bolsonaro, est-il en train de s'aligner sur les positions climato-sceptiques de Donald Trump ? 23% des salariés du privé, c'est un peu l'autre chiffre du jour, vont au travail malgré leur arrêt maladie. Peur d'être mal vu ou de perdre sa place ou peut-être même de voir l'entreprise flancher. Mais que se passe-t-il dans nos entreprises privées? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Audrey Goutard.
Bonsoir.
Et bienvenue, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. Également ce soir avec nous, bonsoir Véronique Reilsoult.
Bonsoir.
Directrice générale de Dentsu Consulting. Quelque chose me dit que vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir. Également invitée Marie-Virginie Klein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicante associée du cabinet Tilder et notre autre partenaire Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien, bienvenue.
Bonsoir.
Co-fondateur et directeur d'Atlantico.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Son discours n'aura fait finalement qu'alimenter le mécontentement, voire la colère. 8 Français sur 10, donc, n'ont pas trouvé Emmanuel Macron convaincant. Principal enseignement de notre sondage au Doxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, effectué hier et aujourd'hui par Internet auprès d'un millier de personnes, juste après le discours d'Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Gaël Sliman, le cofondateur et président de Doxa.
On est aujourd'hui à 84% qui estiment que ce mouvement est justifié. Il y a 15 jours de cela, c'était 10 points de moins. Et juste pour comparer le avant-après intervention d'Emmanuel Macron, pour que vous mesuriez ainsi le bénéfice pour les Gilets jaunes, on était à 77% avant les événements des Champs-Élysées et les annonces faites par Emmanuel Macron. On est à 84% maintenant. Et alors là, c'est unanime. Même les sympathisants de La République En Marche sont aujourd'hui 1 sur 2 à estimer que ce mouvement est justifié.
Audrey Goutard, ce discours n'aura donc servi à rien ?
Alors, la question à se poser, ce serait plutôt, est-ce qu'il a répondu aux attentes des Français ? Les Français, visiblement, on les voit, nous, dans le cadre de nos reportages sur le terrain, les Gilets jaunes, ils attendent des réponses très concrètes à leurs problèmes d'argent, à court terme. Et le président a répondu plutôt sur des problématiques à long terme. Ce que je trouve intéressant dans le sondage, c'est que ce sondage, on voit que les Français ne remettent pas en cause le fond des mesures prises. Ils remettent plutôt en cause, si j'interprète bien, le timing de ces mesures. Et effectivement, qu'on veuille à un moment donné leur prendre plus d'argent alors qu'ils sont déjà, ils sentent bien que beaucoup de leurs d'autres concitoyens sont pris à la gorge.
Ouais, Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce qui aura coincé finalement ? C'est que la principale mesure attendue n'y est pas.
Je crois qu'il y a deux choses qui coincent. Il y a deux choses dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une demande à court terme, effectivement, qui s'est focalisée sur la taxe sur le diesel. Et il y a autre chose qui, pour le coup, est totalement à long terme. Enfin, à long terme, ou beaucoup plus profond et beaucoup moins circonscrit. Et qui est une demande qui a été exprimée par les électeurs français, comme on l'a vu au sein de différentes démocraties occidentales. C'est « on ne veut plus de votre système ». Vous avez compris ? On n'en veut plus. C'est ce qui a été dit en 2005. C'est ce que le Brexit exprime. C'est ce que l'élection de Donald Trump exprime. Et Emmanuel Macron, bizarrement, c'était assez vertigineux son discours hier, parce qu'il fait le constat qu'il y a un profond malaise démocratique. Il le dit lui-même, il est conscient. On a construit un monde dans lequel les gens ne se sentent plus chez eux, ou en tout cas ils ont l'impression que ce monde n'est plus fait pour eux. Et puis derrière, il leur propose rien, ou il ne propose qu'une question de méthode. Mais si lui-même voit que le diesel n'est que la goutte qui a fait déborder le vase, la conclusion en tirer, il me semble, n'est pas une question de méthode. Ce qui compte, c'est pas est-ce qu'on a rempli le vase par la droite ou par la gauche, c'est qu'est-ce qu'on a mis dans le vase, qu'est-ce qu'on a mis dans le contenu de la mondialisation, qu'est-ce qu'on a fait de cette Europe-là, toutes ces questions-là, il n'y répond pas du tout. Donc, comme il répond ni au carburant, ni à ces questions, ça risque pas de convaincre.
Marie-Virginie Klein, le discours en soi, un brin techno peut-être ?
Alors moi, j'ai été assez surprise par les résultats de ce sondage, en tout cas sur la réaction aux Français au discours d'Emmanuel Macron.
Mais Véronique Reissoul va nous détailler dans un instant.
Non, mais parce que, en fait, dans la globalité de son discours, il a quand même essayé de montrer un ton beaucoup plus compréhensif qu'à l'accoutumée. Donc on aurait pu se dire que la réaction serait meilleure. Et ce que je vois, moi, dans le sondage, c'est peut-être la contradiction entre l'adhésion aux mesures proposées et l'efficacité perçue du discours d'Emmanuel Macron. Pour moi, je pense que ces 80%, ça exprime peut-être avant tout une adhésion croissante au mouvement des Gilets jaunes. Et voilà,
Alors justement, vous tendez la perche à Véronique Reissoul. Véronique, qu'est-ce qu'il faut retirer essentiellement de ce sondage? Où est l'incompréhension finalement?
Alors l'incompréhension, alors effectivement, 6 Français sur 10 sont plutôt d'accord sur les mesures, c'est pas les mesures en soi, c'est la forme, c'est le sentiment de pas avoir été entendu, et le pas entendu, c'est comme vous le disiez, il cristallise sur un sujet très clair qui était l'attente sur des réformes bien précises sur les taxes, mais c'est aussi la forme dans le discours qui était long, et où la partie qui concernait les Gilets jaunes arrivait à la fin. Et donc au début, vous avez un discours extrêmement technique
pour
et
vous, c'est une erreur stratégique, ça.
Il y a un moment, si au début je vous parle et que vous ne me comprenez pas, vous allez passer à autre chose, vous allez décrocher. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de reportages sur le terrain où évidemment les journalistes ont été voir des gilets jaunes et les regardaient écouter, si ça se fait comme expression, mais en tout cas attendaient leur réaction. Et généralement, c'était plutôt une réaction j'ai plus écouté. Et en fait, au moment où il y a un début de discours sur ce qui aurait pu les concerner, ils n'écoutaient plus. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a un seul mot que tout le monde attendait, et ce décalage et cette adhésion doivent venir de là, c'était le mot pouvoir d'achat. Il n'a pas été cité une seule fois. Donc en fait, le décalage, il est là aussi, c'est-à-dire que les mesures, elles sont bien jugées, 6 Français sur 10 disent que c'est bien, mais c'est pas le sujet. Ils disent, ça va pas être efficace pour ce qu'on attend, c'est-à-dire le sujet du pouvoir d'achat. Et puis, ils s'inquiètent aussi, et là c'est plus sur les réseaux sociaux, on pouvait le lire, ils s'inquiètent d'un autre point qui est, si sur ce sujet-là, qui leur semblait pas si compliqué que ça dans le fond à résoudre, ça prend ces tournures-là, ça va être quoi sur des vrais sujets? Et là, on voit qu'il y a le sujet de la retraite, il y a le sujet de la réforme du chômage, où là, ils disent, oula.
Alors, encore beaucoup de choses à dire avec vous et avec nos autres invités, mais pour l'instant, il est 20h10 sur France Info. Pour l'heure, Thomas Bénèche, pour le rappel de l'info sur France Info.
La ministre des Outre-mer annonce de premières mesures pour l'île de la Réunion, effective dès le 1er janvier prochain. La hausse de la prime d'activité de 365 € net par an. L'allocation adulte handicapé passe à 900 € par mois. Annick Girardin est depuis ce matin à la Réunion, confrontée à de vives tensions en marge de la grogne des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui ne rencontreront pas le Premier ministre pour le moment, c'est ce qu'indique l'un de leurs représentants, Éric Drouet, ce soir sur France Info. Il explique qu'il n'y a pas d'entrevue possible avant la manifestation de samedi sur les Champs-Élysées à Paris. Le mouvement doit par ailleurs désigner des représentants régionaux et départementaux. La présidente Les Républicains de la métropole Aix-Marseille-Provence propose la mise en place d'un plan de 600 millions d'euros pour lutter contre le logement insalubre dans la cité phocéenne. L'enveloppe serait abondée par l'État et les collectivités territoriales. Cette proposition intervient après l'effondrement de 2 immeubles le 5 novembre dernier. Le drame avait fait 8 morts. En Ligue des champions de football, Neymar et Mbappé sont bien dans le 11 de départ du PSG. Les Parisiens affrontent ce soir à 21h Liverpool avec l'obligation de s'illustrer s'ils veulent se qualifier pour les 8e de finale de la compétition.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, merci à vous Thomas Bénèche, et non pas Tony Bennett, qui est un célèbre crooner tout à fait appréciable. Alors nous allons poursuivre sur ce sondage Odoxa Dentsu Consulting. Tout d'abord, je vais vous faire écouter ce qu'a dit ce matin Édouard Philippe sur BFM TV. Il se dit prêt à recevoir une délégation jaune, le Premier ministre donc ce matin avec Jean-Jacques Bourdin.
À partir de demain, je vais recevoir les organisations syndicales, patronales,
Mais eux aussi.
S'il y a une délégation représentative de Gilets jaunes qui souhaite être reçue, je le ferai. Je le ferai avec la volonté d'écoute et de dialogue, qui est la mienne, et en essayant de prendre en compte ce qu'ils formulent. Parce que dans ce qu'ils formulent, il y a beaucoup de choses très légitimes. Il y a beaucoup de choses qui doivent être entendues.
Audrey Gutarès, est-ce que ce n'est pas là le signe, au fond, que l'exécutif se rend compte qu'il y a ce décalage aujourd'hui entre le message gouvernemental et l'attente très forte des Gilets jaunes ?
En tout cas, le Premier ministre fait le job après, d'après discours de président de la République, c'est-à-dire effectivement dire, voilà, tendre une main, mais en même temps, chez Jean-Jacques Bourdin, il a été très clair sur le fait qu'il ne voulait finalement rien toucher au rythme de la de ces mesures. Donc, d'un côté, effectivement, il reçoit, alors il dit écoutez le dialogue, voilà. Et d'un autre côté, effectivement, il annonce qu'il ne, voilà, la base de négociation est ténue parce qu'il annonce qu'effectivement, il ne bouge pas.
Oui, Véronique Reilsoul, c'est quoi la piqûre de rappel finalement?
C'est une espèce de piqûre de rappel, mais après il y a deux sujets. D'abord, Édouard Philippe, il y a un petit sujet avec les 80 km/h qui reste une base quand même compliquée pour discuter avec les Gilets jaunes. Et ensuite, dans le discours, quand on analysait et qu'on essayait d'étudier comment les gens avaient réagi, il y a exactement la même contradiction qui est, Monsieur Macron a commencé en disant on va tenir le cap, mais on va commencer une longue concertation. Et les uns et les autres, alors donc, on sait déjà quelle est l'issue de la concertation. En fait, c'est ça, c'est perpétuellement, en voulant montrer qu'ils sont fermes et qu'ils vont pas bouger, et en même temps, en expliquant qu'ils vont discuter et dialoguer, ça devient un peu compliqué. Donc, écouter le dialogue en fait partie. C'est curieux de dire, je sais très bien ce que je vais faire, je vais pas bouger, mais discutons.
Marie-Virginie Klein, au fond, les annonces concernant les prix des carburants arrivent à la fin, ça a été dit sur ce plateau du discours. Là, le Premier ministre, finalement, ne nie pas qu'il puisse recevoir in fine les gilets jaunes. On a l'impression que tout ça est un petit peu dans la difficulté, dans la douleur.
Oui, alors, si jamais le Premier ministre rencontrait les Gilets jaunes, ce serait quand même un événement politique sans précédent.
Vous diriez majeur?
Moi je dirais majeur, parce que ce serait une façon d'illustrer que les corps intermédiaires ne font pas leur travail. Et finalement, on assisterait à une forme de démocratie directe dans laquelle les représentants d'un mouvement, ou en tout cas certains membres d'un mouvement,
ce n'est pas envisageable pour vous.
Viendraient. Si, c'est envisageable, puisqu'il l'a dit. Alors maintenant qu'il a dit, si une délégation souhaite le faire, là il est engagé, et pour le coup ça serait une très grave erreur de revenir sur cet événement-là. Donc ça serait un événement quand même sans précédent. Moi, la question que je me pose, c'est si cette conversation a lieu, si cette rencontre a lieu, ça sera pour discuter de quoi finalement, enfin sur quelle base. Est-ce qu'ils vont parler d'un point de vue technique sur les mesures à prendre concernant les taxes, le travail, ou est-ce que ça sera simplement un dispositif d'écoute supplémentaire que ce qu'ils entendent aujourd'hui chaque jour dans la rue?
Alors Jean-Sébastien Ferjou, je vais vous faire réagir à ce que disait hier soir Éric Drouet, c'est l'un des deux porte-parole qui a été reçu chez François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Et Éric Drouet avait d'ores et déjà annoncé la poursuite du mouvement.
Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que non, il n'y a pas de réelle envie d'améliorer le sort des gens. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. Et après, de continuer aussi comme toutes ces personnes qui sont sur le terrain toute la nuit et toute leur journée, qui font un travail de fou. Eux, ils sont là pour la continuité du mouvement. Et le samedi, c'est vraiment plus pour le nombre de personnes qui va se réunir en une seule journée.
Jean-Sébastien Ferjou, la messe est dite, il est trop tard.
Il est trop tard tant que le gouvernement ne veut pas changer, mais je pense qu'ils sont un peu paumés, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. L'attitude d'Édouard Philippe était assez révélatrice ce matin, à la fois sur la forme, mais sur le fond aussi. C'est non, on ne fera rien sur le SMIC, non, on ne changera rien sur rien. Je pense qu'ils ne comprennent pas que incarner le camp de la raison aujourd'hui, ça n'est plus jouable. Emmanuel Macron est allé trop loin. Alors, bien sûr, tous leurs prédécesseurs sont aussi responsables du bilan politique dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle, mais Emmanuel Macron a poussé très très loin le bouchon. Souvenez-vous, quand il disait en une de Forbes, exit l'exit tax un matin de 1er mai. C'est-à-dire que les gens, c'est pas, effectivement, le sondage le montre, ils ne sont pas contre en soi l'idée d'une transition écologique, ils ont l'impression qu'elle est injuste. Ils ont l'impression, en plus, dans un certain nombre de cas, que les décisions technocratiques, elles sont parfaitement contestables, parce qu'on l'a vu sur le nucléaire, sur l'EPR, par exemple, ça devait coûter 3 milliards, être fini en 2010, on est en 2018, ça a coûté 5 fois plus, c'est toujours pas terminé, donc ils n'ont pas de vraie raison de croire à ces discours de gens intelligents qui viennent s'adresser à eux, et encore une fois, ils sont allés trop loin, ils ne comprennent pas qu'ils vont devoir payer, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui relève maintenant tellement de l'émotionnel, du psychologique, que la raison n'a plus voix au chapitre. Ce qui ne veut pas dire que, en tant que politique, ils devraient, eux, céder au chaos et se mettre à faire n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'ils il devrait écouter ce que je vous disais tout à l'heure. Et le porte-parole des Gilets jaunes, après, je ne sais pas s'il est représentatif ou pas représentatif, mais il me paraissait parler quand même avec une forme de sagesse. C'est autre chose, c'est quelque chose, la revendication actuelle, et on le voit par la sociologie des gens qui sont dans les rues. Il y a des mères de famille, des femmes, normalement, dans les mouvements sociaux. Il y en a peu. C'est un mouvement, pardon d'employer des grands mots, mais qui a quelque chose de... très révolutionnaire, mais ça ne veut pas dire qu'on va rejouer la même histoire que ce qu'on a connu.
Alors,
il y a une demande vous dites, de changement de monde.
Vous dites, Jean-Sébastien...
Et ça, ils ne l'entendent pas, ils ne veulent pas l'entendre. Et en plus, je vais vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui joue. Ils font un transfert. C'est-à-dire qu'ils demandent aux gens de faire des efforts sur la transition écologique, alors qu'en fait, ils ne veulent, eux, faire aucun effort sur le changement de leur monde. Le monde qui a produit les 1%, monde qui a produit l'optimisation fiscale.
Audrey.
Ça, les gens veulent que ça change et eux, ils veulent faire aucun effort.
Rebondissez sur ce que dit à l'instant notre ami Jean-Sébastien Ferjou. Vous diriez, vous aussi, c'est pré-révolutionnaire?
Non, pas du tout. Alors nous, c'est pas du tout ce qu'on voit. Nous, sur le terrain, on voit... les gens ne disent pas qu'ils veulent changer le monde ou changer... on entend un certain slogan « Abba Macron », mais globalement...
Mais ça, ça ne veut pas dire changer le monde, Abba Macron.
Et ils ne veulent pas. ils ne parlent pas non plus. On n'est pas dans les idéaux. On est dans du... On voit des gens qui ont des problèmes pragmatiques. Et c'est là c'est là où il y a un décalage. J'ai le sentiment, quand j'ai écouté le Premier ministre chez Jean-Jacques Bourdin, c'est-à-dire que le Premier ministre chez Jean-Jacques Bourdin dit « on ne comprend pas, on a fait un effort, on baisse les cotisations, on supprime la taxe d'habitation et on est prêt à aider pour la transition au fuel, etc. » Donc on ne comprend pas pourquoi les gens ne sont pas contents. Mais lorsque nous, on parle avec les gens sur le terrain, ils nous disent « moi je gagne 1400 euros par mois net, c'est mon SMIC, je vais devoir payer 20 euros d'essence en plus, alors vous pouvez baisser les cotisations de 20 euros, mais eux, les gens, ils ne s'y retrouvent pas parce que généralement... »
Audrey, ça c'est une revendication, mais il y a une autre revendication qui est systématiquement derrière, malgré tout.
Juste une toute petite réflexion quand même, c'est qu'à chaque fois... qu'il y a eu des mouvements comme celui-là, mais il y a eu aussi Nuit Debout, il y a eu les éleveurs aussi qui sont battus. Les Français sont toujours à 80% pour les justement.
Véronique Reilsoult, un mot là-dessus sur la nature de cette mobilisation qui semble inéluctable.
Je ne dirais pas qu'ils veulent changer le monde, c'est pas à ce point-là.
Ils veulent un autre monde.
Ils veulent un autre monde. En fait, c'est surtout un sujet de défiance, c'est-à-dire ils n'ont plus confiance dans les politiques qui pour eux ne les représentent pas, ils n'ont plus confiance dans le gouvernement qui ne les a pas écoutés, et ils n'ont pas non plus énormément confiance dans les médias qui pour eux ne les informent pas bien. En particulier, ce week-end, c'était flagrant de voir l'exaspération qu'il y avait sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook, sur le fait qu'on ne parlait que de Paris, qu'on montrait pas tout le reste.
Que changer de système politique, de système médiatique, de système économique, ça ressemble un peu à changer de monde, à mon avis, mais je peux me tromper.
Concluez, Véronique.
Et donc, en fait, la réalité, c'est qu'ils voudraient quelques petits signes. Ils sont quand même conscients qu'ils ne pourront pas tout révolutionner, mais quelques petits signes. Et vous disiez tout à l'heure qu'on était au bord de quelque chose d'un peu émotionnel. Évidemment, si à chaque fois que vous dites « je ne suis pas content », on vous répond « mais si, en fait, c'est parce que tu n'as pas compris », il y a un moment où ça devient crispant. Et c'est ça le sujet. Il est compliqué d'arriver à expliquer les gens qu'ils n'ont pas compris, qu'effectivement, si ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est sans doute parce qu'ils ne savent pas bien gérer les aides, c'est sans doute parce que...
Nous reviendrons sur le mouvement des Gilets jaunes et sur cette mobilisation et sur notre sondage promis dans la deuxième partie des informés. Mais tout d'abord, 20h21, rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
La Banque d'Angleterre prévient ce soir, sans accord sur le Brexit, la livre sterling chuterait de 25%, le chômage grimperait à 7,5%. Elle dresse ce scénario alors que les députés britanniques doivent voter le projet d'accord de sortie de leur pays de l'Europe le 11 décembre prochain. Outre-Manche, les Français jugent le mouvement des Gilets jaunes justifié à 84%. C'est ce qu'indique un sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro publié ce soir. Ce chiffre progresse de 7 points par rapport à notre précédente enquête sur l'opinion des Français sur cette mobilisation. Selon la décision rendue aujourd'hui par la cour d'appel de Versailles, le CHU de Saint-Étienne va devoir rembourser pour plusieurs millions d'euros d'emprunts toxiques. Le centre hospitalier demandait la nullité des clauses d'intérêt liées aux prêts contractés auprès de la banque franco-belge Dexia. Ces emprunts ont été faits entre 2004 et 2010. À l'issue d'une audition devant le Sénat, le chef de la diplomatie américaine innocente, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, montré du doigt dans la mort du journaliste originaire de son pays, Jamal Khashoggi. Selon Mike Pompeo, les services de renseignement des États-Unis ne dispose d'aucun élément liant directement le prince à ce meurtre. La CIA, citée par plusieurs médias américains, pense le contraire.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous Thomas, vous revenez. C'est une autre enquête signée Malakoff Médéric, le groupe mutualiste qui fait s'interroger aujourd'hui sur les conditions de travail dans le privé. Un salarié sur quatre cette année n'a pas osé prendre ou aller au bout d'un arrêt maladie. Étude rendue publique alors que l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, réunit de nouveau les partenaires sociaux aujourd'hui, demain. Quelques données chiffrées tout d'abord avec Arnaud Moreau de France Télévisions et ensuite vous réagissez.
23% des patients renoncent à respecter tout ou partie d'un arrêt maladie. Une proportion en hausse de 4 points en un an. 8% des patients reprennent eux le travail avant le terme de leur arrêt maladie. Une tendance particulièrement remarquée chez les hauts cadres, un dirigeant sur deux n'applique pas la consigne de son médecin. Raison invoquée, être arrêté affecterait le bon fonctionnement de l'entreprise ou entraînerait des pertes financières.
Audrey Goutard, quelle est l'idée? C'est la peur de déplaire à la hiérarchie d'un côté, de la pression dans les entreprises, de perdre son travail?
On note que c'est chez les cadres essentiellement. Donc effectivement, les cadres sont très pressurés. Il y a un enjeu économique, période de crise en plus, où il faut effectivement montrer qu'on est capable de foncer et d'être là et d'être présent pour ses équipes. Donc en même temps, vous avez noté quand même que ça ne représente pas la majorité, c'est un chiffre assez succinct.
Alors c'est 22% chez les cadres et 11% chez les ouvriers.
Oui, tout à fait. Alors le 11% chez les ouvriers me paraît plus inquiétant parce que 11% chez les ouvriers, c'est vraiment la peur de déplaire au patron. Enfin, et peut-être aussi la peur d'avoir de fournir un travail moins efficace, etc. Mais quand même, chez les ouvriers, il y a évidemment une contrainte plus forte.
Marie-Virginie Klein, nous avons évoqué hors micro cette situation. Vous aviez souligné un paradoxe.
Oui, il y a un paradoxe entre cette étude qui montre que de plus en plus de salariés ne prennent pas entièrement leurs arrêts maladie et en parallèle un taux d'absentéisme au travail qui n'a jamais été aussi élevé depuis 10 ans. C'est la troisième étude qui sort depuis septembre sur l'arrêt de travail ou l'absentéisme.
Avec un chiffre spectaculaire qui a été donné récemment d'ailleurs au fait.
Avec un 207 oui. milliards d'euros dépensés.
C'était l'Institut Sapiens, c'est un think tank libéral certes, mais le chiffre dépasse les 100 milliards d'euros.
L'équivalent du budget d'éducation nationale.
L'éducation nationale.
Et en fait, là où je trouve qu'il y a peut-être une évolution, c'est que c'est justement ça, donc on comprend pourquoi les cadres prennent moins leur congé maladie que le reste des salariés. Mais en revanche, l'absentéisme augmente, y compris chez les cadres. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que on a l'impression de pouvoir résister, de pouvoir continuer à travailler, même si un arrêt maladie, on le respecte pas forcément. Sauf qu'en réalité, souvent, ça conduit sur une situation de burn-out. Et souvent, ce burn-out, il conduit sur une situation de vraie absence de longue durée qui, là, contribue à une augmentation de l'absentéisme.
Oui. Jean-Sébastien Ferjou, ces chiffres, parfois spectaculaires, on le voit, traduisent une forme de malaise dans la vie de l'entreprise aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'on peut pas tellement les analyser, parce que c'est pas la même chose de savoir si vous êtes allé travailler alors que vous aviez encore la jambe cassée, ou de savoir si justement ça renvoyait à une fatigue nerveuse ou morale, puisqu'il y a quand même une explosion.
Le fait de vouloir arrêter son arrêt maladie.
Oui, mais je pense que
raccourcir.
Réellement, je pense que ces statistiques-là, elles ne veulent rien dire. Imaginez, vous êtes cadre, vous êtes directeur financier, juridique, ou je sais pas quoi, il y a personne d'autre qui peut vous remplacer. Vous devez arbitrer entre quoi et quoi, entre retourner plus tôt, et d'une certaine manière, éviter de vous compliquer plus la vie au moment où vous allez réellement revenir, ou alors revenir à la fin et vous la compliquer plus à ce moment-là. Donc c'est ce genre d'arbitrage-là qui sont faits par des cadres supérieurs. Je suis pas certain que ça dise beaucoup plus que ça sans éléments supplémentaires. En revanche, l'absence sur l'étude sur l'absentéisme, elle dit beaucoup. Incontestablement, il y a un malaise qui s'installe parce qu'il y a une question de sens. Il y a une crise du sens dans l'économie dans laquelle on vit. Et on en revient à l'actualité qu'on vit par ailleurs. C'est aussi la crise du sens à laquelle sont confrontés les Gilets jaunes. C'est tout ça. Pourquoi travailler autant? Pourquoi? Parce que avant, on travaillait beaucoup, mais on avait la perspective que dans 10 ans, nous-mêmes, pour nous-mêmes, ça allait aller mieux, et pour nos enfants, ça allait beaucoup mieux. Maintenant, on considère que pour nous-mêmes, dans 10 ans, ça ira peut-être mal, et pour nos enfants, ça ira encore plus mal.
Véronique Rensoult.
Je sais pas. Enfin, on n'a pas le temps là de rentrer dans le détail, la différence entre arrêt maladie et absentéisme. Mais si je reviens juste sur l'histoire de l'arrêt maladie.
Il y a une différence, il faut préciser.
Il y a une différence. Mais, sur l'arrêt maladie, quand on revient, que j'ai la jambe cassée ou que je sois vraiment stressée, dans tous les cas, il y a un dénominateur commun à chaque fois qui est la pression liée à la mobilité. Croyez pas que je sois auto-obsédée constamment par les réseaux sociaux et par les outils numériques, mais il y a cette réalité-là qui est que, en fait, Autrefois, vous aviez le temps était séparé entre le travail, la vie privée, la réalité. Aujourd'hui, c'est séquencé. Et donc, fait, vous avez, je finis juste, quand vous recevez une centaine de mails dans la journée, que vous êtes malade et que vous savez que quand vous allez revenir, il y aura encore plus de mails, que vous commencez à répondre du coup de chez vous, parce que vous dites, ben, comme ça finit par écouler. Ça explique aussi le retour, c'est-à-dire que la linéarité du temps et la pression liée à ces nouveaux outils qui fait qu'on ne peut pas, tant que ça, déconnecter, joue forcément pour que les uns et les autres viennent plus vite au travail. Je ne dis pas que c'est la seule chose, mais ça joue.
20h28, nous marquons une pause pour la météo, le rappel de l'info, et nous revenons et nous allons évoquer de nouveau les suites, les conséquences de la mobilisation, de la crise des Gilets jaunes. À tout à l'heure.
La musique fait son cinéma. Les enfants du paradis, la grande illusion. Touchez pas au Grisby, Quai des Brumes, À bout de souffle, Mon oncle, Le mépris. Les plus belles musiques de films sélectionnées par Bertrand Tavernier avec l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Les 11, 12 et 13 janvier à l'Auditorium de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr. Radio France, la musique fait son cinéma. France Info Météo, avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
La matinée s'annonce pluvieuse entre le Finistère, la Vendée, la Normandie et les Hauts-de-France. Cette perturbation va progressivement s'enfoncer sur le pays, permettant le retour d'un temps plus changeant sur la Bretagne, puis la Basse-Normandie avec quelques éclaircies, mais aussi des averses pouvant localement prendre un caractère orageux en fin de journée. Demain après-midi, la perturbation donnera des pluies intermittentes entre les Ardennes, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Pays Basque, en passant par le bassin parisien. Le vent va également se renforcer, notamment près de la Manche, avec des pointes pouvant souffler jusqu'à 80 à 100 km par heure entre le Boulonnais et les Abers-Bretons. À l'avant de la perturbation, les nuages élevés s'étaleront sur le reste du pays. Ces nuages d'altitude seront assez épais en matinée entre le Berry, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, mais l'impression sera plus lumineuse l'après-midi. Le quart sud-est bénéficiera lui d'un temps plus ensoleillé, en particulier l'après-midi. En revanche, poussé par le vent de Méditerranée, des nuages vont envahir le ciel du Languedoc et laisseront même échapper quelques gouttes demain après-midi sur les Cévennes. L'ambiance restera douce pour la saison, avec des maximales comprises entre 9 degrés à Strasbourg et 19 degrés à Biarritz.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. C'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain au pied du mur avant d'affronter Liverpool à partir de 21h pour l'avant-dernier match de la phase de poule. La défaite est interdite sous peine d'être éliminé de la course 8e. Alors l'entraîneur Thomas Tuchel exhorte ses joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes.
It's super important.
C'est très important de ne pas perdre de vue l'objectif final, mais pas de jouer en pensant au résultat. Ce qui peut se passer si on gagne, si on fait match nul, si on perd, ce n'est pas ça. Plus le match est important, plus la pression est importante, plus il faut être concentré et être relâché dans le même temps. On ne peut pas contrôler le résultat. Personne ne le peut en football. Personne. C'est du sport. On regarde devant nous, c'est un immense challenge. Maintenant, on se concentre sur notre performance et nous verrons ce qui arrive.
Voilà l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel pour le match de ce soir. Neymar, Mbappé et Cavani seront titulaires, qu'on envoie donc à 21h. Et puis depuis 19h, Monaco se déplace sur le terrain de l'Atlético Madrid, mené 2-0. Les Monégasques sont en passe d'être éliminés de toute compétition européenne. La mobilisation des Gilets jaunes sur le terrain faiblit, mais l'exécutif ne trouve pas la porte de sortie. Moins de 10 000 manifestants ont été recensés par les autorités, mais ils restent déterminés. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs annoncée samedi prochain sur les Champs-Élysées. Et alors que quelques députés de la majorité réclament une inflexion, le Premier ministre Édouard Philippe est resté droit dans ses bottes ce matin. Pas de pause sur la hausse des taxes sur le carburant, pas de coup de pouce non plus pour le SMIC. Mais Édouard Philippe s'est dit prêt à la discussion et à recevoir une délégation de Gilets jaunes à Matignon. Le maire de Pau, François Bayrou, a lui aussi proposé de dialoguer. En tout cas, selon notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour le Figaro et France Info, le mouvement des Gilets jaunes est justifié pour 84% des Français interrogés. Les Gilets jaunes sont davantage mobilisés à La Réunion. La ministre des Outre-mer est arrivée aujourd'hui sur place. Elle était très attendue, Annick Girardin, et elle a déjà détaillé des annonces spécifiques pour les Réunionnais, comme par exemple la hausse de 360 euros par an de la prime d'activité. La ministre doit encore faire des annonces sur le pouvoir d'achat et se rendre demain dans les différentes régions de l'île où plus d'une trentaine de barrages routiers sont encore installés. Plusieurs centaines d'ambulances et de taxis ont manifesté à Marseille, Bordeaux ou encore à Lyon. Aujourd'hui, un mouvement pour protester contre la réforme du financement des transports sanitaires. Depuis le 1er octobre, la prise en charge de ces transports revient directement aux hôpitaux et aux cliniques. Et puis devant les protestations des États-Unis et de plusieurs pays européens, la menace de nouvelles sanctions, la Russie contre-attaque et accuse les Américains et certaines capitales européennes de tolérer les caprices de Kiev, et ce après les incidents en mer d'Azov dimanche dernier. 20h33, la suite des informés. Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités. Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Véronique Reissoult, directrice générale de Dentsu Consulting, avec Marie-Virginie Klein, communicante associée du cabinet Tilder, et avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico.fr. Retour sur cette crise des gilets jaunes avec un coup de projecteur sur l'île de La Réunion, toujours bloquée, vous le savez. Annick Girardin est arrivée à Saint-Denis ce matin. La ministre des Outre-mer huée à sa sortie de l'aéroport Roland-Garros par des centaines de manifestants, s'est rendue sur le proche barrage du rond-point de Gilo, bloqué par quelques 2000 gilets jaunes. Annick Girardin qui tente de déverrouiller la situation.
Je suis ici pour vous dire que j'ai entendu, que je lis d'ailleurs vos messages, que je sais que La Réunion souffre depuis déjà longtemps, mais surtout ces 10 derniers jours.
Audrey Goutard, alors la ministre est venue avec quelques propositions hein, dans sa besace, si je puis dire, mais là c'est une situation tendue, 42% de la population de l'île, c'est particulier. Mais il y a tout de même ce mouvement des Gilets jaunes qui fait tache d'huile dans les Outre-mer.
Oui, vous avez ce mouvement des Gilets jaunes, mais qui est... les problématiques des Outre-mer sont ils ont été abandonnés. Alors c'est tellement la situation est tellement caricaturale par rapport à la situation en métropole. Ce sont des gens qui sont abandonnés depuis des années dans des situations contraintes évidentes. Et là, mettre un gilet jaune, si vous voulez, ça n'a pas la même symbolique que lorsque on le fait en métropole. Je pense que la crise de l'outre-mer se résoudra beaucoup plus lentement qu'elle ne se résoudra en métropole.
Jean-Sébastien Ferjou, vous faites le distinguo, vous aussi, entre ce qui se passe dans nos territoires des Outre-mer et la métropole ?
Oui, bien sûr, parce que la proportion de gens bénéficiant d'aide sociale, entre autres, ou se trouvant au chômage, n'est pas tellement comparable
26%
à celle de la métropole. Après, je trouve ça complètement abusif de dire qu'ils ont été abandonnés, parce que bien sûr qu'il y a des tas de problèmes, mais enfin, les transferts financiers de la métropole, justement, vers les territoires d'outre-mer sont quand même assez conséquents, et si vous vivez, je sais pas où, aux Antilles, que vous comparez entre vivre sur une île indépendante et vivre sur une île française,
Faire son marché, acheter dans un supermarché en Outre-mer ou acheter dans un supermarché en métropole, c'est pas du tout le même.
Je vous dis pas qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous dis juste que c'est complètement abusif de dire qu'on les aurait abandonnés parce que ça n'est pas le cas. Ce qu'on fait, on le fait mal, et les aides, on les accorde mal, y compris d'ailleurs parfois en assistant les gens plus qu'en leur donnant les moyens de se développer. Mais c'est pas un abandon. On les aide mal, comme il y a des amours qui font mal aussi, ça veut pas dire qu'on aime pas les gens.
Oui.
Mais bref.
Marie-Virginie Klein, par-delà ce qui se passe pour nos compatriotes et amis des Outre-mer, est-ce que vous diriez que c'est le pays, pour revenir à la situation des gilets jaunes en métropole notamment, est-ce que c'est le pays tout entier qui réclame plus de social, plus de gestes en sa direction?
Oui, c'est vraiment une manifestation populaire. Et dans cette manifestation populaire, il y a le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est que vraiment monsieur et madame, tout le monde, j'aime pas cette expression, mais se fait entendre, chacun a sa voix, et chacun arrive à exprimer ses besoins, ses manques, etc. C'est d'ailleurs très lié maintenant aux usages permis par les réseaux sociaux, et d'ailleurs il y a même des chefs qui s'autoproclament, on sait pas vraiment comment les porte-paroles de ces ouais. manifestations s'autoproclament ou arrivent à se faire valoriser auprès d'un journaliste, etc. Donc le meilleur, on peut s'exprimer, mais le pire aussi, c'est évidemment le vandalisme dont
la casse des Champs-Élysées, on peut le dire. Il y avait un témoignage étonnant d'un policier ce matin dans les pages du Parisien aujourd'hui en France. Et vu le niveau de violence, il faut rappeler qu'il y a d'un côté les gilets jaunes qui manifestent, qui eux-mêmes se sont pris entre le marteau et l'enclume. Il faut le dire quand
c'est
même.
C'est extrêmement violent. Ce témoignage dans le Parisien est extrêmement violent. Et justement, ça participe un peu de cette mise en abîme de ce mouvement qui est aussi parfois atteint l'ultra violence. Oui. Ce qui est compliqué aussi, on parlait de la Réunion, là on parle des Champs-Élysées. En fait, tout ça, ce sont des vitrines de la France. Du point de vue des étrangers, la France a l'air d'être à feu et à sang, mais il y a le vandalisme, mais il y a aussi tout simplement les conséquences d'un point de vue économique, notamment sur les Champs-Élysées, que ça peut enclencher.
Véronique Relsoult, vous qui surveillez en permanence les réseaux en question, les réseaux sociaux, que dit-on sur ce qui pourrait se produire samedi ?
Alors déjà, avant la manifestation de week-end dernier, on voyait bien qu'il y avait énormément d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup de gens qui renonçaient à venir à Paris en ayant peur des débordements, peur pour leur sécurité, peur des amendes aussi. Et évidemment, une fois que ces dérives ont eu lieu, je passe le fait qu'il y avait quand même beaucoup de témoignages aussi de gens qui avaient essayé de calmer les choses sur place et que c'est compliqué parce que comme il n'y a pas de service d'ordre très cadré, c'est des sommes d'initiatives individuelles ou de petits groupes, donc forcément c'était débordé.
Il n'y a pas de service d'ordre. Du tout.
Non, pas du tout.
Pas de syndicat, pas de syndicat, pas de parti politique.
Voilà. Donc voilà. Du coup, forcément, il y a des gens pas qui de sont SO. Calmes, d'autres qui sont moins calmes. Globalement, on voit quand même que les trois quarts des consignes sont aujourd'hui plutôt dans une logique de il faut être calme et il faut s'organiser pour être calme. Il faut faire en sorte qu'on arrive à ce qu'il y ait le moins de débordements possible. Mais ils ont quand même peur. Ils craignent pour leur propre sécurité et ils ont peur de se retrouver en porte-à-faux. Après, certains finissent par se dire bonne nouvelle, il va pleuvoir samedi.
Il pleut samedi.
Beaucoup. Oui. Et donc ça va peut-être aider.
Je ne sais pas si
calmer.
Ça les arrête en même temps.
Oui. Audrey Goutard, est-ce que l'on peut sécuriser décemment les Champs-Élysées, ne pas revivre ce que nous avons vu samedi dernier?
Je veux quand même faire une petite parenthèse. Je vous rappelle quand même que la préfecture de police avait proposé le Champ de Mars.
Oui,
qui est une zone sécurisée et où effectivement le rassemblement aurait pu se dérouler dans des conditions de sécurité maximum. Après, les gens, et je peux le comprendre, on se sont dit nous on est français, on va là où on veut et les Champs-Élysées nous appartiennent. On peut imaginer, je sais que la préfecture de police y réfléchit, notamment avec la mairie de Paris. Il y a des régulièrement les Champs-Élysées sont piétonniers et dans ce cadre-là, effectivement, il y a des filtrages qui sont instaurés à l'entrée de toutes les rues des Champs-Élysées, etc. Donc on peut imaginer un rassemblement avec ce filtrage et que les gens qui se retrouvent à l'intérieur de ce filtrage soient sans armes.
Allez, 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
L'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes aura lieu samedi sur les Champs-Élysées à Paris, confirme ce soir sur France Info l'un des porte-paroles du mouvement, Éric Drouet. Il décline en revanche toute entrevue avec le Premier ministre d'ici cette date. Édouard Philippe s'était dit prêt ce matin à rencontrer une délégation représentative des Gilets. Le tribunal de l'Union européenne déboute aujourd'hui Marine Le Pen et lui demande de rembourser un peu plus de 40 000 euros. La présidente du Rassemblement national avait déposé un recours pour s'opposer à la demande de recouvrement de cette somme au Parlement européen. Une somme utilisée pour le paiement de son garde du corps en tant qu'assistant à Bruxelles entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011. La mère de Jonathan Daval nie toute complicité dans le meurtre de sa belle-fille Alexia. Elle le dit aujourd'hui dans un entretien télévisé après sa mise en cause par le beau-frère de la victime. Dans un courrier adressé à ses avocats, celui-ci soulignait qu'un cheveu de la mère du suspect avait été retrouvé dans le coffre de voiture ayant servi à transporter le corps d'Alexia. L'UNESCO a décidé d'inscrire aujourd'hui sur sa liste du patrimoine culturel immatériel les savoir-faire liés à la fabrication du parfum de Grasse. Interrogé sur France Info, le maire de la ville se dit plus qu'heureux de cette décision.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors la crise des gilets jaunes qui résulte notamment d'un ras-le-bol fiscal fait s'interroger sur le consentement à l'impôt. Emmanuel Macron peut-il aller plus loin sur les baisses de taxes comme il l'a suggéré hier dans son discours? Cela passe par plus de réformes de l'État, a-t-il dit, réduire la voilure donc pour peut-être rendre de l'argent aux Français, aux contribuables. Édouard Philippe l'a rappelé ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, alors que Roland Lescure, le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, je rappelle qu'il est député La République en marche des Français d'Amérique du Nord, a émis des doutes au micro de Nicolas Bétou de L'Opinion. Voici donc Édouard Philippe, puis Roland Lescure, et vous analysez ensuite.
Le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit hier? On peut regarder si on va plus vite sur la diminution des impôts et des taxes. Mais si on va plus vite sur la diminution des impôts et des taxes, parce que moi, je veux pas augmenter la dette publique, hein. Je veux pas la laisser à mes enfants. Et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut diminuer la dépense publique.
C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On est les champions du monde de la fiscalité et de la dépense publique. Donc d'abord, on baisse la dépense publique. Et ça, je dois avouer qu'on a un peu de mal à le faire. Et moi, je vois des ministères qui font des efforts. Le ministère de l'Éducation nationale, je pense, est véritablement en train de changer de paradigme. Et d'autres pour lesquels les efforts sont encore à faire. Et j'espère qu'ils vont l'être.
Jean-Sébastien Ferjou, donc, on n'y est pas encore, hein.
Non, effectivement, on n'est pas encore, mais tout le monde le constate, et la Commission européenne le constate, comme les Français de toute façon. Et en plus, les chiffres qui sont sortis sur la consommation des ménages montrent que les moteurs de la croissance française sont en train de s'éteindre les uns avec les autres. Donc la suite du quinquennat va de toute façon être extrêmement compliquée d'un point de vue budgétaire pour le gouvernement. Mais après, on en revient toujours au même point. On peut raisonner en défensif en disant « le gâteau étant ce qu'il est, essayons de faire des efforts pour dépenser mieux », ou on peut se dire « tiens, c'est bizarre, il y a des pays qui ne sont pas si loin de chez nous, comme la Suisse, comme la Suède, comme le Royaume-Uni d'ailleurs, parce que si vous regardez depuis 2008, au Royaume-Uni, il y a eu plus d'1 400 000 emplois qui ont été créés en solde net. En France, c'est 200 000. Donc comment font-ils? C'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il y a un problème de changement de monde, de changement des règles avec lesquelles ce monde-là fonctionne. Et ça, les élites françaises y ont renoncé, mais totalement renoncé. C'est-à-dire on ne fait que des efforts d'organisation. Enfin, et encore, on ne les fait pas. On dit qu'on les fait. Ce matin, Édouard Philippe disant chez Jean-Jacques Bourdin « Je partage l'impatience sur la baisse des impôts et des taxes », c'est quand même sidérant, parce qu'en termes de communication, alors soit il veut nous exprimer que de toute façon, il y a un Premier ministre ou il n'y en a pas, ça revient au même, parce qu'il ne sert strictement à rien, il ne peut rien faire, ou alors il se fiche alors royalement de notre gueule. Mais il n'y a pas de bonne manière de l'entendre.
Marie-Virginie Klein, est-ce que concernant le service public, on parle de baisser au fond le coût de l'État, le train de vie de l'État, est-ce que c'est moins ou est-ce que c'est mieux de service public, hein?
C'est moins pour mieux, j'imagine que c'est la logique. Mais juste pour revenir sur l'idée du consentement à l'impôt, parce que je trouve ça intéressant que ce consentement à l'impôt soit aujourd'hui de façon publique remis en cause. C'est-à-dire que le cœur du pouvoir, c'est de lever l'impôt ou de celui qui a la légitimité pour prendre de l'argent et pour le dépenser. Là, quand le consentement à l'impôt disparaît, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est-à-dire que en France, le consentement à l'impôt est assez fort. Les gens acceptent relativement facilement de payer. Là on voit que c'est pas le cas, mais c'est encore une nouvelle forme, marque de rupture de confiance.
Ouais, comment vous expliquez Véronique Reltsoult, parce qu'il est question aussi, vous savez, le président a dit hier, il a évoqué les baisses d'impôts, les projets de baisse, peut-être aller plus loin, puisqu'on a évoqué tout le temps en boucle la taxe d'habitation, les cotisations sociales. Est-ce que vous êtes sûr que les Français sont à l'écoute de ce qui se passe? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des attentes plus fortes? Qu'est-ce qui se dit au fond?
En fait, ce qu'on peut souvent lire, c'est une question autour du sens et une question autour de à quoi ça sert? Parce que payer, pourquoi pas, si on sait à quoi ça sert. Et après, il y a un autre sujet, c'est un sujet de vocabulaire, mais si je vous parle de dépenses publiques, je comprends pas forcément ce que vous me racontez, c'est pas mon argent. Si on parle du budget des contribuables, ça commence à devenir un peu plus clair, et donc du coup, dans un budget des contribuables, on comprend qu'il y a des arbitrages qui devront être faits et ça devient une discussion un peu plus, on va dire, adulte. Et vous parliez de changement de monde. En fait, les citoyens, ils ont aussi envie qu'on leur parle normalement, crédiblement, et surtout qu'on arrête de leur expliquer les choses de façon un peu obscure. Ils veulent juste comprendre où vont les choses clairement. Et il y a au moins quelque chose qui était intéressant dans ce mouvement. Il y a plein de choses très intéressantes, mais quelque chose qui est très intéressant, c'est que les gilets jaunes se sont penchés sur les taxes et commencent à décortiquer et se posent vraiment la question de, comment ça fonctionne réellement. Et donc, quand on parle de TIPP, il y a quelque temps, on aurait pu raconter des tas de choses. Et là, il suffit d'aller sur Facebook et de voir à quel point les uns et les autres s'expliquent.
Les citoyens mettent le nez dans les comptes publics.
Ils mettent tellement le nez
dans... Mais il y a la question de la justice de l'impôt. Il n'y a pas que le consentement. Il y a la question de la justice perçue par les Français.
Mais aussi de comprendre déjà.
De l'injustice.
Avant même la justice et l'injustice, ils posent souvent la question du à quoi ça sert. Ils décortiquent. Et là, je voyais depuis ce matin pas mal de posts où les gens disaient, en fait, sur le carburant, on paye une taxe sur la taxe. Et ça, voilà, en disant, mais je m'étais jamais rendu compte que on avait quand même une spécificité en France, qui est qu'on arrive à taxer des taxes. Effectivement, on paye la TVA sur une taxe à un moment donné. Donc, c'est assez intéressant de voir que, du coup, ça a au moins déclenché ça. Une prise de conscience d'une envie de comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et donc, non plus de parler de dépenses publiques, mais de budget des contribuables.
Audrey Goutard, c'est un aspect positif, ça, que les citoyens, finalement, mettent le nez dans les comptes.
Ils mettent le nez dans les comptes. Et je pense qu'ils le mettent depuis longtemps, parce que finalement, leur questionnement est assez, assez correct. C'est-à-dire qu'ils se disent, nous, c'est notre argent. Comment vous le dépensez? Ils demandent des comptes à l'État. Et puis, toute cette affaire arrive aussi en même temps avec l'affaire Carlos Ghosn, où effectivement les Français se disent « Ok, on paye des impôts d'un côté, on comprend pas très bien ce qu'on fait de nos impôts, et puis par ailleurs, la France a quand même détient le chapeau le plus haut la France vient de décrocher le titre de plus gros payeur de dividendes en Europe, donc les mises en cause des entreprises. Il y a l'affaire Carlos Ghosn qui arrive par-dessus. Donc on dit, les Français se posent des questions qui sont des questions de bon sens. Et alors après, je ne sais pas ce que deviendra ce mouvement, mais au moins, effectivement, comme vous dites, un, ils s'y intéressent, deux, ils montrent qu'ils s'y intéressent depuis longtemps, et qu'à un moment donné, ils disent stop, bon, voilà.
Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Jean-Sébastien Ferjou, vous évoquiez cette envie de, quelque part, de changer d'ADN, de modèle. Ce n'était pas le propos de la dernière élection présidentielle?
Ah mais si, mais je pense que c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes prend la tournure qu'il est en train de prendre à l'heure actuelle. C'est ce que je vous disais, il y a une demande d'autre chose. Emmanuel Macron a été le réceptacle de cette autre chose. Il a su créer une magie où il a pu sembler être le porteur de cette autre chose. Il s'est fait élire sur la promesse de la différence, sauf que la campagne ayant été ce qu'elle a été, et on n'est jamais vraiment rentré dans le cœur d'un certain nombre de sujets, la nature de la différence n'avait pas été précisée. Donc après, la différence, ça peut être en mieux ou en moins bien. Peut-être demain, vous viendrez avec les cheveux verts. Est-ce que ça sera mieux ou moins bien? Je ne sais pas, ça sera différent.
Ça sera pour un pic d'audience.
Oui, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que la différence incarnée par Emmanuel Macron, elle n'est pas exactement forcément celle qu'attendait les Français. Et le voile est en train de se dissiper et il peine à répondre à ça. Mais oui, bien sûr, il y a une demande d'autre chose et c'est ce qu'exprime profondément les vagues populistes. Parce qu'on regarde toujours la moumoute orange de Donald Trump ou ses emportements, ou on regarde les excès d'un Salvini ou d'un Orban ou de je ne sais qui, mais on ne regarde pas les électeurs. Il faut regarder les électeurs, il faut regarder ce qu'il y a dans leurs attentes. Encore une fois, ils considèrent que ce monde qui a produit les 1%, qui a produit les inégalités, qui fait que dans des pays parmi les plus riches au monde, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, et bien ça, ils disent pourquoi les promesses que vous nous avez faites depuis 30 ans, 40 ans, pourquoi est-ce que le monde qu'on a construit depuis la chute du mur de Berlin, parce qu'il y avait un sens de l'humain et de la mesure qui existait avant, ne serait-ce parce qu'on avait peur de la menace révolutionnaire et on n'a plus peur maintenant, tous ces excès-là d'un capitalisme financiarisé, tous ces excès d'une concurrence déloyale, parce que quand vous êtes un fabricant de jouets français, on est bientôt à Noël, que vous avez un nombre de normes extravagants qui pèsent sur vous, et puis que le conteneur qui arrive de Chine, personne ne vérifie rien, parce que les douaniers français sont uniquement occupés à vérifier ce que nous on exporte pour être bien sûr que nos produits, ils ont les bonnes normes, par exemple sur le marché américain. Mais voilà, ce monde-là, ils disent stop, vous nous avez promis monts et merveilles, on constate que ça n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent une révolution au sens de ne plus être dans une économie capitaliste, par exemple. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on change les règles.
Allez, on va parler de Trump, justement, dans un instant, pas de sa moumoute, mais de climat. Mais pour l'heure, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info, le dernier avec vous, Thomas Benesch.
Ils avaient interpellé en 2016, avant sa mort, Adama Traoré. Trois gendarmes ont été entendus pour la première fois aujourd'hui et hier. Leur audition s'est déroulée devant un juge d'instruction et sous le statut de témoin assisté, non de mise en examen, dit que ce soir leurs avocats. Adama Traoré, 24 ans, a été arrêté le 19 juillet 2016 dans le Val d'Oise à l'issue d'une course-poursuite avant d'être maintenu au sol par les trois gendarmes entendus. La ministre des Outre-mer fait de premières annonces pour l'île de la Réunion, effective dès le 1er janvier prochain. La hausse de la prime d'activité de 360 765 euros net par an, l'allocation adulte handicapé qui passe à 900 euros par mois. Annick Girardin est depuis ce matin à La Réunion confrontée à de très vives tensions en marge de la grogne des Gilets jaunes. La présidente Les Républicains de la métropole Aix-Marseille-Provence propose la mise en place d'un plan de 600 millions d'euros pour lutter contre le logement insalubre dans la cité phocéenne. L'enveloppe serait abondée par l'État, les collectivités territoriales. Cette proposition intervient après l'effondrement de deux immeubles le 5 novembre dernier. Le drame avait fait 8 morts. En Ligue des champions de football, Neymar et Mbappé, de retour de blessure, vont jouer ce soir avec leur équipe du PSG. Les Parisiens affrontent Liverpool avec l'obligation de s'illustrer s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Le match démarre dans une dizaine de minutes. À noter que Monaco, de son côté, est éliminé de la compétition.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Cette annonce à quelques jours de l'ouverture ce dimanche de la COP24 à Katowice en Pologne a pris tout le monde de court. Le Brésil renonce à accueillir la COP25, c'est dans un an officiellement pour des raisons budgétaires. Mais il y a aussi la personnalité très climato-sceptique de Jair Bolsonaro. Le nouveau président brésilien qui entre en fonction en janvier est clairement aligné sur les positions de Trump, qui ne croit pas, lui, dans ce rapport qui a été émis par sa propre administration, qui affirme que le réchauffement climatique coûterait à l'économie américaine des centaines de milliards de dollars d'ici la fin du siècle. Voici Monsieur Donald Trump.
Oui, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Et je vais vous dire autre chose. Il faut prendre en compte la Chine, le Japon, toute l'Asie et tous ces autres pays. Et ce rapport concerne notre pays. Aujourd'hui, nous sommes plus propres que nous ne l'avons jamais été. C'est très important pour moi, mais si nous sommes propres et que tous les autres endroits de la Terre sont sales, bien ce n'est pas si bon.
Audrey Goutard, Donald Trump, Jair Bolsonaro, on a compris, même combat, mais ce discours de ce président qui tweet à toute vitesse et dont la parole est diffusée aussitôt sur toute la planète, est-ce qu'elle pèse dans le débat, selon vous? Est-ce qu'elle fait douter les populations de la planète?
Alors, en tout cas, elle fait douter les dirigeants lobbyistes de la planète, à l'instar de Bolsonaro. On voit bien que Donald Trump est un vieux monsieur, qu'il a plus très longtemps à vivre, et que c'est vrai, c'est son âge. C'est un homme qui ne se projette pas, et qui, en tout cas, ne se projette pas pour ses petits-enfants plus tard. Voilà, c'est une vision à court terme. Avec humour, je voulais dire que c'était une vision à court terme. Et effectivement, Jair Bolsonaro suit son principe. Principal entre guillemets client, c'est-à-dire Donald Trump, c'est très dommage puisque avant le Brésil s'était battu pour faire partie et pour en être des accords de Paris. C'était battu pour pouvoir accueillir cette COP25. Donc voilà, ce sont quelques chefs d'État qui n'ont pas de vision à long terme. Et voilà.
Alors, je rassure tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, hein, Monsieur Trump.
C'est
de l'humour. On a bien compris.
Oui, bien sûr, c'est de l'humour. Et puis en plus, c'est une vérité du fait de son âge.
Marie Virginie Klein, vous savez, ces sujets passionnent les citoyens. Je vois, Daniel nous a écrit pour nous dire, ils font marcher comment les voitures électriques que ce gouvernement veut nous faire acheter. De plus, pas un mot sur votre plateau sur l'Allemagne qui fait fabriquer son électricité par la Pologne avec du charbon pour ne pas assumer sa pollution. Vive l'Union européenne. Daniel n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il dit. Ce sont des sujets aujourd'hui planétaires qui concernent les citoyens. Et d'ailleurs, pour revenir au sondage, Véronique Reissoult, les Français s'intéressent aux propositions qui sont faites. Marie-Virginie Klein, la parole d'un Trump, elle peut peser sur le débat?
Bah oui, elle pèse énormément puisqu'elle est relayée de façon extrêmement forte. Vous avez parlé de vision à court terme. Moi, je dirais que Donald Trump a aussi une vision très électoraliste et populiste du sujet. C'est-à-dire que si on regarde un peu l'électorat américain, il y a quand même un Américain sur deux pour qui le changement climatique est très 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 loin d'être, la lutte contre le changement climatique est très loin d'être la priorité numéro une. Donc il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien ce qu'il dit, il a été en plus conforté à la fois sur son style et sur le fond de ce qu'il dit par les dernières échéances électorales. Donc il a une vision totalement populiste, et oui, son avis compte, parce que malgré tout, en France, il y a aussi des gens qui pensent, et une proportion qui est pas neutre, neutre, des gens qui pensent que la priorité, c'est pas forcément ce sujet-là du développement durable et de, et c'est vrai, et c'est aussi ce qu'on voit là de cette grogne si forte vis-à-vis de la hausse des prix du carburant, c'est aussi un des témoignages que finalement il y a d'autres priorités que celles du changement climatique.
Il nous reste très peu de temps, Véronique Reilsoult, les propositions émises par le chef de l'État, majoritairement elles sont plutôt appréciées, même si le malentendu reste complet, hein, il faut le rappeler.
C'est 6 sur 10 des Français considèrent que ce sont des bonnes mesures, donc c'est plutôt positif. Après, ils disent derrière, ça ne va pas être très efficace en revanche, c'est des bonnes mesures, mais on voit bien que ce n'est pas là le fond du sujet.
Oui, c'est bien pour Sébastien ça que Donald Trump, comme souvent, il met le doigt sur là où ça fait mal, c'est-à-dire il y a des failles dans les raisonnements des autres, donc il est populiste, il est électoraliste, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais sauf que quand vous regardez les experts du GIEC, ils vous disent personne n'est capable en l'état de vous dire si les mesures envisagées par la conférence de Paris permettront, oui ou non, de contenir la hausse des températures. Quand vous dites les questions que vous évoquiez de votre auditeur, oui, une voiture électrique, sur sa durée de vie, ça pollue autant qu'une voiture normale. En revanche, le nucléaire, qui est devenu le grand démon, il y a eu des études qui ont montré que ça avait permis d'éviter des millions de morts dans le monde. Donc Donald Trump, bah oui, il met le doigt sur des réalités.
Conclusion.
Malheureusement, c'est pas parce que c'est devenu un article de foi pour les gens.
C'est autre chose. Il dit pas que c'est pas une priorité, il dit qu'il n'y croit pas.
Et là où
non,
il est très
mais
bon,
quand nous, on fait des efforts sur le diesel, la réalité, qu'il y aurait plus aucune voiture qui circulerait demain, ça ne changerait rien au destin de la planète, parce que la pollution à l'heure actuelle, elle est en Inde, elle est en Chine.
C'est le mot de fin. Merci à vous, Véronique Reilsoult. Je rappelle le sondage. Il est en ligne. Vous pouvez le consulter sur franceinfo.fr. Merci, Audrey Goutard. Merci à vous, Marie Virginie Klein. Jean-Sébastien Ferjou. En une seconde, qu'est-ce qu'il y a quand on clique sur atlantico.fr?
Est-ce que la grande concertation de terrain lancée par Emmanuel Macron a le potentiel de se transformer en états généraux à la 1789?
Très bonne question. Allez, rendez-vous demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonne soirée.